VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Bamako, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Ebola en RDC, 61 morts. Tel est le nouveau bilan de la 10e épidémie de cette fièvre hémorragique dans l'est du pays. 34 décès parmi les cas confirmés par des tests en laboratoire sur des prélèvements et 27 parmi les cas probables, a annoncé ce jeudi le ministère congolais de la Santé. Les autorités font état d'un total de 103 cas en date du 22 août, 76 confirmés et 27 probables. 2179 personnes ont été vaccinées dans la région de Beni, province du Nord Kivu, épicentre de l'épidémie. Le gouvernement congolais a tenu mercredi un conseil des ministres exclusivement consacré à l'Ebola. Selon un compte-rendu de la réunion dirigée en personne par le président Joseph Kabila, le budget de la riposte s'élève à 43 millions de dollars. Le conseil des ministres a exprimé son inquiétude au sujet de l'épidémie qui est localisée à la lisière de deux provinces à forte densité de population, le Nord Kivu et l'Ituri, et où la grande mobilité de la population présente un grand défi de santé publique. Élections RDC maintenant, le gouvernement congolais soupçonné de vouloir organiser des élections à huis clos. Kinshasa a fait comprendre à ses partenaires, notamment l'ONU, l'Union européenne et l'Afrique du Sud, qu'il peut se passer de leur aide, conseils et remarques pour les élections prévues dans 4 mois, jour pour jour, le 23 décembre. Le gouvernement congolais a par exemple rejeté lundi la nomination de l'ex-président sud-africain Thabo Mbeki comme envoyé spécial en RDC. Annoncé par la presse, mais jamais confirmé officiellement par Pretoria. Kinshasa veut tenir les envoyés spéciaux et autres observateurs à distance d'un processus électoral qui a pour but ultime la première transition pacifique du pouvoir en RDC. Pour l'instant, le calendrier est respecté au jour près, après l'annonce du retrait du président Joseph Kabila de la course à la magistrature suprême et la désignation de dauphin, et avant la publication ce vendredi de la liste provisoire des candidats. Élections en Afrique toujours, à Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle a enregistré 46 candidatures pour le scrutin présidentiel prévu les 7 novembre et 19 décembre prochains. Les trois derniers chefs de l'État sont en lice. Idriss Fall joint à Antananarivo, la capitale malgache, David Rajaon, directeur du think tank Yi Politica.
En 2013, Madagascar a connu une élection présidentielle et on a vu 39 candidatures. Là, on est à 46 et ça vient de tomber. 10 candidats ont été invalidés. Au total, on a 36 candidats aujourd'hui. La liste officielle sera connue dimanche prochain.
Et qui sont les candidats potentiels les plus connus et les plus en vue?
Naturellement, donc, il y a les anciens présidents, 4 anciens présidents de la République qui se présentent, et également le président de l'Assemblée nationale actuelle. Ils sont très connus. En même temps, on peut dire qu'ils ont aussi les moyens de leur ambition.
Y compris notamment les deux anciens frères ennemis, Marc Ravalomanana et Ange Rajoel.
Oui, ce sont les deux grands prétendants, en fait, de la magistrature suprême. On peut dire qu'ils sont déjà préparé depuis longtemps. Et on remarque également que la campagne électorale a déjà bien commencé avant la date officielle.
Et il semble même que Didier Ratsirak, 81 ans, ancien président, veut revenir dans la course.
Oui, et sa candidature a été retenue. Ancien président, 81 ans, il a beaucoup de choses à dire. Beaucoup plus par rapport à ce qu'il veut partager, qu'il se prétend être de nouveau candidat et surtout essaye de s'imposer dans les débats politiques.
Est-ce qu'on peut dire que ces prochaines élections vont aider la Grande Île à sortir définitivement de toutes ces crises à répétition?
Pas tout à fait, parce qu'on a une crise de représentation à Madagascar qui se transforme en crise de gouvernement. La conséquence fatale, c'est la crise de développement. On peut dire aussi que cette élection est différente des élections qui se sont passées auparavant, parce qu'il y a déjà eu une crise pré-électorale au mois de juin-juillet 2018. Donc.
Les deux opposants demandaient le départ de l'actuel président, R. Ramon Pianan.
Oui, les deux opposants, avec une alliance, ont fait des actions pour que le départ de l'actuel. La vraie question, en fait, était sur la loi électorale, tout simplement. Hein.
Et maintenant, c'est réglé, cette loi électorale?
La loi électorale n'est pas réglée, mais l'élection va se tenir quand même.
David Radjaon, directeur du think tank Y-Politica à Antananarivo, Madagascar.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique australe maintenant, au Zimbabwe, toujours pas de décision de la Cour constitutionnelle concernant la requête de l'opposition réclamant l'annulation de l'élection qui a conduit à la victoire du président sortant Emmerson Mnangagwa sur son principal opposant, le leader du MDC, le Mouvement pour le Changement Démocratique, Nelson Chamisa. L'opposition a dénoncé mercredi au tribunal des fraudes et manipulations qui ont été aussitôt démentis par le camp du vainqueur. Le point avec Morgan Guiriek.
La confrontation entre les deux camps s'est déroulée dans une salle comble et sous haute surveillance policière. Les échanges ont été retransmis en direct par la chaîne nationale. Les avocats du Mouvement pour le Changement Démocratique ont tiré à boulets rouges sur la commission électorale, accusée d'avoir truqué les résultats. Les avocats d'Emmerson Mnangagwa ont rejeté ce qu'ils ont qualifié de dossier vide de preuves. De son côté, l'avocat de la commission électorale a plaidé le rejet pur et simple de la demande du MDC au motif qu'elle avait été déposé hors délai. Au terme d'une longue journée, les 9 juges ont donc levé l'audience et renvoyé leur décision à vendredi après-midi. Ils peuvent exiger un recomptage des voix, ordonner un nouveau scrutin ou bien confirmer les résultats.
Afrique du Sud, le gouvernement sud-africain a vivement critiqué ce jeudi un tweet du président américain Donald Trump s'inquiétant des saisies de terres et de fermes en Afrique du Sud. Et Pretoria a défendu ce qu'il appelle l'approche prudente et inclusive de son projet controversé de réforme agraire. Dans une de ses saillies électroniques quotidiennes, Donald Trump a écrit mercredi soir qu'il avait chargé son secrétaire d'État Mike Pompeo de se pencher sur le dossier de la terre et des meurtres de fermiers blancs en Afrique du Sud. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a souligné que la réforme agraire vise à réparer l'injustice historique grave commise à l'égard de la majorité noire pendant la période coloniale et l'apartheid, qui a officiellement pris fin en 1994. Mais les Sud-Africains blancs s'en inquiètent ouvertement. Ils craignent la répétition des expulsions violentes de fermiers blancs ordonnées au début des années 2000 au Zimbabwe voisin par le régime de l'ex-président Robert Mugabe. Afrique australe, toujours, le Mozambique a mis en place de nouveaux tarifs en très forte hausse pour l'enregistrement et l'accréditation des journalistes locaux et étrangers. Le point avec Raissa Girondin.
Le nouveau décret du gouvernement est entré en vigueur hier. Désormais, un journaliste étranger doit débourser 1 500 euros pour faire un reportage et jusqu'à 7 500 euros par an s'il souhaite s'installer comme un correspondant d'un média étranger. Les médias locaux ne sont pas épargnés car la taxe pour enregistrer une chaîne de télévision est passée à 45 000 euros. L'ONG locale de défense de la presse mise à Mozambique a annoncé son intention de dénoncer la mesure devant la justice. Human Rights Watch et Amnesty International ont dénoncé une tentative évidente de faire la chasse aux journalistes. Le gouvernement de Maputo a laissé entendre qu'il pourrait amender son décret, mais n'a pas retardé son entrée en vigueur.
Afrique du Nord, crise migratoire aux abords de la Méditerranée. Plus de 100 migrants ont réussi à pénétrer mercredi dans l'enclave espagnole de Ceuta, frontalière du Maroc. Les précisions de Claire Morin-Gibault.
Hier matin, 300 migrants ont essayé de traverser la frontière. Les forces de l'ordre marocaines ont réussi à en stopper certains, mais 116 migrants ont réussi à passer après avoir escaladé la clôture de 6 mètres de haut qui sépare l'enclave du Maroc. Pour repousser la garde civile, des migrants ont jeté sur les agents de sécurité des récipients en plastique remplis d'excréments, de sang, de chaux vives et d'acide. Des images diffusées par le journal local montrent des jeunes migrants africains fous de joie d'être en Espagne, après avoir escaladé la double clôture, certains agitant un drapeau espagnol ou européen. Plusieurs ont des blessures aux jambes et aux mains. 5 migrants ont été conduits à l'hôpital de Ceuta. Ceuta et Melilla, deux enclaves espagnoles, sont la seule frontière terrestre entre l'Union européenne et l'Afrique.
Et pour terminer, en Libye, 4 militaires ont été tués et 3 autres blessés ce jeudi dans une attaque contre un checkpoint près de la ville de Zliten, située à 170 km à l'est de Tripoli, dans l'ouest du pays. L'attaque menée par 3 personnes a visé la force des opérations spéciales du ministère de l'Intérieur au barrage de sécurité de Wadikam, a déclaré Mofta Amadi, le maire de la ville. Ce barrage de sécurité se trouve dans une région où le groupe djihadiste État islamique est actif, mais l'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Merci de votre attention.